VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par le combat anti-djihadiste dans le Sahel. Au Mali, au moins 25 soldats des FAMA, les forces armées maliennes, ont été tués dans des combats intenses lundi et mardi pour le contrôle de deux camps militaires attaqués dans le centre du pays par les djihadistes. Les assaillants ont eux-mêmes perdu 15 hommes, a indiqué le gouvernement malien. Les précisions de Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Suite aux doubles attaques de Mondoro et Boulkessi le lundi dernier, hier, l'armée malienne a livré une bataille pour reprendre au centre des positions tombées aux mains des présumés djihadistes. En effet, c'est un bataillon de l'armée malienne sous le commandement de la force conjointe du G5 Sahel qui était sous contrôle des terroristes. Dans les rangs des FAMA, le bilan provisoire fait état de 25 morts, 4 blessés évacués par aéronef des FAMA sur Sévaré, une soixantaine de portés disparus et de lourdes pertes en matériel. L'identification se poursuivait car il s'agissait des victimes des deux jours de combat. Selon le gouvernement malien, c'est après un déploiement des forces spéciales maliennes le lundi dernier dans la zone de combat, c'est-à-dire Boulkessi et Mondoro, que les FAMA, malgré les tirs de harcèlement des terroristes, ont pu récupérer le camp de Boulkessi hier soir. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Cameroun, troisième jour du grand dialogue national à Yaoundé, visant à trouver des solutions pour mettre fin au conflit dans les deux provinces du nord-ouest et du sud-ouest anglophones. Plusieurs personnalités politiques ont profité de la réunion pour aborder des questions sur la forme de l'État. Un sujet exclu des débats, Eric Maniraquiza.
John Frundi, leader du SDF, principal parti d'opposition, a exigé un retour au fédéralisme, comme c'était le cas avant son abolition. Si ces propositions sont ignorées, le SDF menace de se retirer du dialogue. Akere Mouna, anglophone opposant et avocat de renom, a claqué la porte, dénonçant le refus d'ouvrir un débat sur la forme de l'État. Une autre opposante, Alice Sadio, ne participe plus aux travaux, dénonçant un grand monologue hypocrite. En convoquant ce dialogue, le président Paul Biya avait exclu toute discussion sur le fédéralisme, la sécession et son statut de président. Mais lundi à l'ouverture, une figure du RDPC, le parti au pouvoir, Ibrahim Mbombo Njoya, sultan de Fumban, a quand même posé la question de l'alternance au sommet de l'État. Selon lui, le seul remède pour guérir le mal et la limitation des mandats présidentiels à deux. Le Premier ministre Joseph Dion Nguté a dû lui faire un rappel à l'ordre. Le dialogue national s'est poursuivi hier à huis clos dans des travaux en commission.
En République démocratique du Congo, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, a exhorté le procureur de la Cour constitutionnelle mardi à enquêter sur le patrimoine de l'ancien président Joseph Kabila et des anciens ministres. La même demande a été adressée au procureur de la Cour de cassation, a indiqué le président de l'ACAJ, Georges Kapiamba, ce mercredi à l'AFP. La loi congolaise impose aux chefs de l'État et aux membres du gouvernement de déposer au greffe de la Cour constitutionnelle leur déclaration écrite de patrimoine familial au début et à la fin de leur mandat respectif. D'après la CAJ, plusieurs des responsables visés ne l'ont jamais fait. À noter que lundi, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, investi le 6 septembre, a déposé la déclaration écrite de son patrimoine au greffe de la Cour constitutionnelle.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale toujours, en République centrafricaine, la situation humanitaire et sécuritaire est jugée catastrophique à Birao dans le nord-est du pays. Depuis les affrontements entre les groupes armés dans la ville au cours du mois écoulé, plus de 13 000 personnes vivent dans de mauvaises conditions dans les camps de déplacés. De Bangui, un reportage de Freeman Sipila.
Les affrontements du 1er et du 8 septembre dernier entre les groupes armés rivaux FPRC et MLCJ ont plongé la ville de Birao dans la précarité. En dehors du nombre de morts estimé à une soixantaine, plusieurs maisons et commerces ont été détruits et des quartiers vidés de leurs habitants. Sur les trois sites que compte la ville, la situation humanitaire ne cesse de se dégrader. De retour d'une visite dans la localité, la ministre de l'Action humanitaire Virginie Baïkwa se dit inquiète et propose des actions.
Nous avons trouver une population encore affectée par les événements de ces derniers temps. Et vous savez, ils ont peur. Donc, il faut réunir les conditions sécuritaires pour parler de retour. On a identifié des besoins et il faut apporter les réponses. Par exemple, ils sont affectés. Il faut les aider à dépasser la peur. Il faut aussi améliorer leurs conditions de vie. Ils sont dans des huttes qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc, il faudrait améliorer les abris. Il y a beaucoup de choses à faire.
L'insalubrité, les mauvaises conditions de vie sur les sites obligent certains déplacés à braver l'insécurité et à regagner leurs habitations. Certains déplorent le manque de médicaments, d'autres se plaignent d'une prise en charge sanitaire insignifiante. Pour Dr Pierre Somsi, ministre de la Santé publique, des dispositions sont déjà prises.
Une organisation a été mise en place, donc centrée sur l'hôpital bien sûr, mais comportant des unités qui sont installées dans les sites, qui sont des unités pour la prise en charge d'urgence, dans les cas de PALU par exemple, et tous les cas graves sont repérés à partir de ces unités à l'hôpital. Je crois que le système actuel est adéquat. Donc nous verrons avec l'évolution de la situation dans quelle mesure renforcer ces différentes stations au niveau du centre. Il y a aussi d'ailleurs au niveau de l'un des centres une tente pour des blessés, puisqu'il y a eu des blessés qui ont dû être remis à leur communauté. Et donc il y a une tente pour suivre ces blessés-là sur place.
L'avenir scolaire de nombreux enfants confinés sur les sites des déplacés est aussi menacé. Conscient de cette situation, l'UNICEF propose des alternatives. Christine Mouigana, sa représentante en République centrafricaine.
Nous avons eu déjà la semaine dernière une mission d'évaluation pour voir comment une rentrée scolaire pourrait se faire à Birao. D'habitude, dans ce genre de circonstances, ce qu'on essaie de faire pour parer au plus pressé, c'est d'établir ce qu'on appelle des espaces temporaires d'apprentissage pour les enfants, où on pourrait s'assurer que si les enseignants sont là, si on a un minimum de matériel pédagogique et d'espace pour les enfants, qu'ils puissent commencer un semblant d'année scolaire en attendant qu'ils puissent retourner à l'école. Mais c'est une préoccupation qui nous a été clairement exprimée par les autorités là-bas, par les communautés, et nous allons y travailler avec les partenaires qui sont rassemblés ici.
Malgré l'accalmie observée depuis plusieurs jours à Birao, les habitants craignent encore un regain de violence. Cette inquiétude fait que plus de 13 000 personnes sont toujours massées sur les sites des déplacés, occasionnant ainsi la paralysie des activités dans la ville. Freeman Sipila Bongui pour VOA Afrique.
Afrique du Sud maintenant, visite d'État du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, demain jeudi dans le pays. Au programme raffermir les liens bilatéraux après une vague meurtrière de violences xénophobes qui a secoué l'Afrique du Sud début septembre. Au moins 10 personnes avaient été tuées, dont 2 ressortissants étrangers, lors de ces troubles qui ont débuté à Pretoria et se sont propagés jusqu'à Johannesburg, la grande métropole sud-africaine. Ces attaques qui ont pris pour cible des entreprises appartenant à des étrangers ont duré plusieurs jours et déclenché des réactions d'indignation en Afrique, notamment au Nigeria. En riposte, des entreprises sud-africaines installées au Nigeria ont fait l'objet d'attaques et de boycotts. Le président Muhammadu Buhari et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa tenteront d'élaborer des réponses aux défis auxquels ils font face. Actualité américaine à Washington, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et l'avocat personnel du président Donald Trump, Rudy Giuliani, rejettent le calendrier que veulent leur imposer l'opposition démocrate au Congrès dans le cadre des efforts des élus démocrates à la Chambre des représentants pour lancer une procédure de destitution contre le chef de l'exécutif. Plus de détails avec Abdourahman Dia.
En réponse aux injonctions des parlementaires démocrates, le secrétaire d'État Mike Pompeo a jugé hier qu'il n'était pas faisable que le Congrès commence dès ce mercredi à entendre 5 diplomates sur la controverse concernant l'Ukraine. Le secrétaire d'État, qui lui-même est l'objet d'une injonction formelle de 3 commissions du Congrès, s'est exprimé dans une lettre virulente adressée à la Chambre des représentants. L'un des 5 diplomates, Kurt Volker, l'envoyé spécial des États-Unis pour l'Ukraine, a démissionné vendredi. Selon Mike Pompeo, ces injonctions sont une tentative d'intimider, de harceler et de maltraiter les éminents professionnels du département d'État. Sommet lui aussi de livrer des documents au Congrès, l'avocat personnel du président Rudy Giuliani a tweeté que l'injonction soulevait de graves questions en termes de légitimité et de constitutionnalité. Les démocrates reprochent à Donald Trump d'avoir demandé à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky d'enquêter sur l'ancien vice-président et candidat à la nomination démocrate Joe Biden.
Pour sa part, le président Trump a qualifié mardi soir la procédure de destitution qui le menace de véritables coups d'État. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.